Du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes arrivés aujourd'hui dans notre exposé sur le catéchisme à la troisième demande du Pater. Fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La sainteté n'est pas une simple étiquette extérieure et superficielle. Ça, c'est l'erreur de Martin Luther, une erreur aussi désastreuse pour les âmes et pour la société qu'elle est contraire aux Saintes Écritures. Non, la sainteté consiste plutôt en l'accomplissement généreux et total de cette parole, que votre volonté soit faite. C'est dire toute l'importance de bien comprendre cette troisième demande du Pater, afin de la formuler en toute connaissance de cause et de tout notre cœur. Nous verrons donc la nécessité de cette demande, la signification, sa signification, et puis les meilleures dispositions pour formuler cette demande. D'abord, la nécessité. Il faut savoir qu'au début de la création, Dieu avait gravé au plus intime de toutes les créatures un désir naturel du bien. Chaque chose avait un penchant naturel pour atteindre le but pour lequel elle a été faite. Les abeilles produisaient leur miel et la cire, les arbres fruitiers donnaient leurs fruits, dans leur temps, la lune et les astres marquaient les saisons. Et dans l'homme, cette inclination vers le bien prenait une forme plus noble, parce que l'homme est doué de raison et de liberté. Donc, dans sa volonté, qui pourtant restait libre, entièrement libre, il y avait une inclination qui le poussait à rechercher Dieu, à le connaître par son intelligence et à s'accorder à son bon plaisir. Chez les créatures dépourvues de raison, cette inclination de la nature vers le bien s'est conservée parfaitement intacte. La bonté naturelle des abeilles les pousse encore aujourd'hui à faire du miel. Et puis la lune et les étoiles continuent à suivre leur cours pour nous indiquer les mois et les saisons. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour l'homme. Par le péché originel, Adam nous a perdu non seulement les biens surnaturels de la justice originelle dont Dieu avait enrichi notre nature, mais il nous a fait perdre aussi ce goût pour la vertu qui, à l'origine, était imprimé dans son âme. Et depuis, l'esprit et le cœur de l'homme sont inclinés vers le mal dès sa jeunesse. De là, il est facile de voir, dit le catéchisme, que nul ne saurait avoir par lui-même le goût des choses du salut, que tous les hommes ont de la propension pour le mal, que leurs affections dépravées sont innombrables, puisqu'une pente rapide les entraîne et qu'une ardeur extrême les jette dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil et dans presque tous les vices. Et le catéchisme continue en faisant remarquer que le pire, c'est que la plupart de ces mots sont loin de nous paraître mauvais ou dangereux. Les hommes sont tellement aveuglés par leur passion que souvent ce qu'ils tiennent pour salutaire est un vrai poison. Nous sommes comme des petits enfants laissés à eux-mêmes, qui courent vers tous les dangers. Si vous laissez un petit enfant sans surveillance, vous êtes sûr qu'il va trouver la chose la plus dangereuse dans la maison, ou il va aller jouer dans la rue. Saint Paul dit, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Qui d'entre nous n'en a pas fait la même expérience dans notre vie? Alors, évidemment, ce tableau n'est pas très réjouissant du tout. Mais le catéchisme se fait un devoir d'insister sur cette réalité dramatique. La liste des effets désastreux du péché originel revient souvent dans ces pages, comme un refrain lugubre. Et ici, le rappel est important pour nous convaincre de la nécessité de cette troisième demande du Pater. En effet, une fois qu'on a compris notre impuissance à faire le bien sans le secours du bon Dieu, une fois qu'on a considéré la violence de notre entraînement naturel vers le mal, comment alors s'empêcher de rechercher avec le plus grand empressement le remède à ces maux? Comment ne pas désirer une règle sur laquelle on puisse guider et modeler sa conduite? Et c'est précisément cela que nous demandons en disant « Fiat voluntas tua », que votre volonté soit faite. Pour lutter contre cet esprit d'orgueil, de révolte, de désobéissance que le péché originel a laissé en nous, nous soumettons par cette prière notre volonté à la volonté divine. Maintenant, pour la signification exacte de ces mots, examinons la portée de ce que nous disons dans ces paroles. Que demandons-nous au juste en disant que votre volonté arrive? D'abord, il faut savoir que le mot « volonté » ici signifie tout ce que Dieu a établi, soit dans l'ordre de la foi, soit dans l'ordre moral, pour nous procurer le bonheur éternel. Donc, c'est d'abord les préceptes de la loi naturelle, les 10 commandements, et puis ensuite tout ce que notre Seigneur nous ordonne ou nous défend par son Église. Les préceptes de l'Église. Donc, en demandant que la volonté de Dieu soit faite, nous demandons avant tout que Dieu nous donne la force d'obéir à ses ordres divins, la force de nous acquitter de tous les devoirs qui nous sont prescrits par la loi de Dieu et de son Église, la force d'être prêt à tout souffrir plutôt que de nous écarter en rien de sa volonté. Et quand Dieu accorde cette grâce, l'observance de ses commandements n'est pas un fardeau. Au contraire, plus on observe la loi de Dieu, plus c'est agréable. Pour les saints, l'observance de la loi de Dieu faisait leur délice. Il y a un très beau psaume, Psaume 118, c'est un psaume que les prêtres disent tous les dimanches en entier. Il est très long, 176 versets. Et le psaume en entier chante le bonheur qu'on éprouve en suivant la loi de Dieu. Il demande des grâces pour suivre la volonté de Dieu. Daignez diriger mes pas vers l'observation de vos commandements. Conduisez-moi dans le sentier de vos commandements, réglez mes démarches, donnez-moi l'intelligence pour que j'apprenne vos préceptes, enseignez-moi vos jugements, donnez-moi l'intelligence afin que je connaisse vos oracles. Ce psaume est une très belle prière à dire si on est tenté de regimber un peu contre la volonté de Dieu. Si on a du mal à accepter telle situation, on peut lire et méditer ce psaume, au moins en partie, c'est le psaume 118. Le désir ardent d'accomplir la volonté de Dieu se traduit aussi par la haine du péché. Et c'est pourquoi le catéchisme enseigne que cette demande comporte en second lieu que nous détestions les œuvres de la chair. Je cite, « Nous demandons à Dieu de ne point nous laisser accomplir ce que les sens, les passions et notre faiblesse pourraient nous conseiller, mais de gouverner notre volonté par la sienne. » En somme, nous demandons, dans cette troisième demande, d'être aussi préoccupés par l'envie de faire la volonté de Dieu que les pécheurs sont absorbés par la pensée de la recherche des choses de la terre, le manger, le boire, le confort, l'estime des autres hommes. Il faut que les chrétiens soient aussi préoccupés par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous voyons déjà que ce que nous demandons dans cette prière est exigeant et dur pour notre nature. En effet, ce n'est pas facile de demander à Dieu de ne pas satisfaire nos passions. Nous semblons haïr nous-mêmes et il ne manque pas de gens dans le monde pour nous taxer de folie. Mais subissons volontiers ces reproches en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, armons-nous de courage, car cette demande ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin, parce que non seulement nous demandons à Dieu de ne point nous accorder ce que désire notre nature déchue, nos passions déréglées, mais encore de ne pas nous donner ce que parfois nous demandons comme quelque chose de bon, mais peut-être sous l'inspiration du démon qui se transforme en ange de lumière. Saint Pierre était motivé d'un zèle qui lui paraissait louable quand il s'efforçait de détourner notre Seigneur de son projet de monter à Jérusalem pour subir sa passion. Et pourtant, notre Seigneur le reprend sévèrement. Et c'était pareil quand Saint Jean et Saint Jacques voulaient faire tomber le feu du ciel pour venger l'honneur de leur maître. Jésus lui-même, au Jardin des Oliviers, après avoir demandé quelque chose de tout à fait légitime, la conservation de sa vie naturelle, il ajoute quand même que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. Alors, avant de passer aux dispositions nécessaires pour bien dire cette troisième demande, quelques explications sur les mots qui suivent, donc sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, cela veut dire « Donnez-nous de vous obéir comme les bienheureux vous obéissent dans le ciel. » Dans une soumission parfaite, inspirée par l'amour et non pas dans un esprit mercenaire. On peut aussi donner un sens mystique à ces mots. Le ciel, c'est les bons et les justes. La terre, c'est les méchants et les impies. Ou bien le ciel, c'est l'esprit et la terre, c'est la chair. Alors, en ce cas-là, la signification est que nous demandons que tous et que toutes choses obéissent à la volonté de Dieu en tout. Alors maintenant, pour les dispositions, il y a surtout deux. C'est l'humilité et la confiance. L'humilité d'abord par le souvenir de la déchéance de notre pauvre nature, l'inclination de nos passions pour le mal. Nous pouvons nous rappeler que les choses inanimées et les animaux sont supérieurs à nous dans cet égard. Oui, ils obéissent à la volonté de Dieu, toujours et en tout. Et l'humilité ensuite, par l'aveu que nous ne pouvons pas savoir mieux que Dieu où se trouve notre vrai bonheur et notre vrai bien. Il est impossible pour nous de saisir toutes les raisons de la providence à notre égard. Mais il n'est pas nécessaire de comprendre pourquoi. Parfois, il faut nous incliner devant la volonté de Dieu en disant avec saint Paul, « Seigneur, que vos voies sont impénétrables. » Et puis, c'est la confiance. Si Dieu connaît mieux que nous, alors il faut lui faire confiance. Il n'y a rien de plus grand, de plus digne que de servir Dieu. Servire Deo, regnare est. Servir Dieu, c'est régner. C'est-à-dire, celui qui s'accorde avec la volonté de Dieu, celui qui veut entrer dans le plan de Dieu, celui-là participe aussi à la souveraineté de Dieu. Il domine d'en haut tous les événements changeants et contingents de cette vie. Si la maladie ou les difficultés de d'argent ou d'autres peines nous accablent, tenons pour certain que rien de tout cela ne peut nous arriver sans la volonté de Dieu. Et puis pensons aux saints personnages dans la Bible qui ne voulaient pour rien au monde violer la loi de Dieu et qui ont été récompensés par le bon Dieu au-delà de leurs espérances. Pensez à la jeune femme Suzanne qui a préféré être faussement accusée et puis jugée digne de mort plutôt que de faire un péché. Puis le bon Dieu est intervenu avec le prophète ou par le prophète Daniel pour le disculper devant les hommes et confondre ses ennemis. Peut-être nous ne verrons pas notre récompense ici-bas. Il faudra peut-être attendre le ciel pour cela. Mais tant mieux, ça sera d'autant plus méritoire. En fin de compte, cette demande que votre volonté soit faite est un acte de foi, un acte de foi dans la bonté infinie de Dieu et en la toute-puissance divine. Loin de nous laisser troubler outre mesure par les contrariétés de la vie, redisons sans cesse que la volonté de Dieu soit faite et puis notre âme retrouvera la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.